9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Fanny Bunion, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez l'histoire à l'Université Rennes 2. Pierre Fournier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur général du patrimoine et vous publiez ensemble à l'iconoclaste Le sexe interdit. C'est sur la répression de la sexualité en France du Moyen-Âge à nos jours. Vous vous êtes plongé dans 10 siècles d'archives judiciaires, hein, depuis le 13e siècle exactement, à une époque où la sexualité est très précisément encadrée par l'Église. Alors, de quelle manière ? Qu'est-ce qui est licite au XIIIe siècle et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Alors, aux yeux de l'Église, tout est illicite, sauf la sexualité à but procréatif. On peut le résumer de façon très simple.
Oui, à but procréatif dans le cadre de la famille.
Mais alors,
de la sexualité conjugale, légitime, inscrite dans les liens du mariage. En dehors du mariage, point de salut.
Mais alors, est-ce que c'est respecté ?
Bien sûr que non.
Non, c'est pas respecté. On a justement des tas de sources qui prouvent, qui montrent que la société entend ces injonctions de l'Église, hein, mais que voilà, on peut pas parler de déviance d'ailleurs, hein, mais on a des sources qui permettent de dire que la société
est assez tolérante au fond.
Voilà, se permet beaucoup de choses et fait preuve de beaucoup, beaucoup de tolérance, bien plus qu'aux époques suivantes d'ailleurs.
Oui, on verra ça, mais c'est intéressant de voir par exemple que la masturbation, qui posera un problème par la suite, hein, au Moyen-Âge, la masturbation n'est pas un problème, même pas pour l'Église au fond.
Effectivement, il y a des traités, des manuels, hein, de confesseurs qui l'évoquent, mais de manière assez anecdotique. Et en fait, voilà, c'est très, très toléré, ce qui va vraiment changer par la suite. Et tardivement, c'est vrai que c'est au 19e siècle que là, vraiment, ça n'est plus l'Église, mais ce sont les médecins qui vont parler à longueur de traité.
Le viol, par exemple, est combattu. On peut s'imaginer, aujourd'hui, on pourrait imaginer que le viol, à l'époque, tout le monde s'en fichait pas du tout, hein.
Le mot viol, déjà, il est pas utilisé au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. On parle de rapt, mais le terme de rapt, il peut désigner aussi bien un viol que le fait de permettre à une femme d'échapper au mariage que veut lui imposer sa famille. Donc on a déjà un terme qui est un petit peu ambigu. Et puis, par la suite, ce qu'on appellerait aujourd'hui des violences sexuelles, effectivement, on en trouve trace dans des archives. Généralement, des femmes qui portent plainte, ou leur famille qui portent plainte pour ces agressions sexuelles, des plaintes aussi contre les enfants. Alors, dans le livre, on a fait le choix de ne pas évoquer la question des violences sexuelles sur les enfants. Mais effectivement, le viol, il est un objet de justice. Alors après, c'est comme aujourd'hui, la part de ce qui est traduit devant la justice ne dit rien de la réalité d'un phénomène, mais par contre, ça dit quelque chose du caractère transgressif et illégal de ces violences.
Ce qui m'a étonné en vous lisant, c'est de réaliser qu'à la fin du Moyen-Âge, les filles se marient à 20 ans et les garçons à 25. Bien plus tard, au fond, qu'on ne pourrait l'imaginer.
Effectivement, il y a cette différence-là et elle varie en plus selon les milieux sociaux. Dans l'aristocratie, par exemple, les mariages sont organisés souvent de manière un petit peu plus précoce. Mais dans la population villageoise, paysanne, ordinaire, effectivement, on se marie à l'âge adulte. À partir du moment aussi où on est en capacité de subvenir à ses besoins.
Mais qu'est-ce qu'on fait avant ?
Alors justement, c'est ça le problème, c'est que cet âge assez tardif finalement du mariage, hein, fait qu'entre 14 et 23, 24, 25 ans pour les garçons, vous avez une longue période d'errance, de quête. Et on lit dans les archives judiciaires énormément d'actes où il est question de ces bandes de garçons qui cherchent des filles et qui souvent d'ailleurs les violentent, avec tous les malentendus d'ailleurs, hein, qu'il y a à cette époque comme de nos jours sur le consentement. Mais c'est vrai que ces adolescents ou ces jeunes adultes, ils vont pas rester cloîtrés chez eux à sublimer, à prier, je ne sais quoi. Ils sont sur les chemins, ils fréquentent les tavernes, les bordels, les bordeaux, comme on les appelait à l'époque. Et donc, il y a cette sexualité juvénile latente qu'on retrouve énormément dans les archives du 15e siècle.
Et on voit qu'on parle déjà à l'époque de « coucher ensemble ». L'expression est déjà employée.
Bien sûr. Alors ça, c'est plus un terme toléré par l'Église. Hein.
Coucher ensemble.
Vivre ensemble, c'est boire, manger, dormir. Et parfois, donc, on voit l'expression « coucher ensemble ». Mais c'est vrai que dans le langage populaire, coucher avec quelqu'un dès la fin du Moyen-Âge, en langue française. Hein, voilà, ça veut dire avoir une relation sexuelle.
Est-ce qu'on en est systématiquement au mariage arrangé par les parents, comme on l'imagine, ou est-ce qu'il y a déjà des mariages d'amour ?
C'est une question très difficile. Les historiens ne sont pas du tout d'accord entre eux. On a cette idée qu'au Moyen-Âge, qu'on soit dans le milieu aristocratique, bourgeois ou paysan, le mariage est arrangé. Et en fait, on se rend compte que dans bien des cas, il y a un mariage voilà, d'affection, d'amour. Et souvent, d'ailleurs, ça crée des problèmes dans les familles. On est incapable de dresser des statistiques là-dessus, mais vraiment. Et on a des témoignages de couples unis qui vivent apparemment une sexualité épanouie, comme on dit de nos jours.
Oui, on en trouve trace.
On en trouve trace, il y en a, c'est évident. Et puis, à contrario, des couples qui se déchirent. Et donc là, c'est l'adultère, bien sûr. Et ça.
Et y compris chez les femmes. Hein. Les femmes trompent leur mari. Voilà. On va faire une pause. On continue juste après. On va voir que, effectivement, la sexualité de nos ancêtres n'est pas du tout ce qu'on imaginait.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Fanny Bunion et Pierre Fournier qui publient Le sexe interdit. Ils se sont plongés pendant des mois dans les archives judiciaires, 10 siècles d'archives, hein, puisque vous remontez jusqu'au 13e siècle. Et on découvre là, tout à coup, la sexualité de nos ancêtres. Par exemple, la pudeur se cristallisait sur les cheveux. Les femmes avaient toujours la tête couverte en France.
Et vous savez, c'était encore le cas au début du XXe siècle. Hein. Une femme en cheveux, c'était une prostituée. L'intérêt de ces archives, c'est qu'à travers les histoires de viol notamment, c'est qu'on voit à quel point les cheveux attirent les hommes. Et donc décoiffer une femme, c'est... En fait, c'est la déshabiller encore plus qu'en la mettant toute nue. Et on a plusieurs documents qui évoquent justement cette... ces coiffes qui volent au moment où on se saisit d'une jeune femme. Et là, c'est terrible. Et souvent, d'ailleurs, on se rend compte que c'est là qu'elle se met à crier, qu'elle se met à pleurer.
On voit aussi que le regard importe moins qu'aux époques suivantes. Les époques qui vont suivre, on regarde beaucoup. Hein, on essaye de surprendre l'autre. Là, c'est le toucher qui est le plus érotique hein, à ce moment-là.
Voilà, le toucher. Et s'agissant du regard, bien sûr, on regarde... L'Église, d'ailleurs, y est attentive hein, pour définir ce que c'est que la pudeur ou l'impudeur. C'est la nature du regard qui importe. Et donc, il y a cet exemple très connu du chevalier d'Olon, le compagnon
de Jeanne d'Arc,
qui, au moment de la réhabilitation de Jeanne d'Arc, se souvient de la façon dont ils ont partagé quelques mois d'existence. Et il se souvient qu'il la voyait toute nue quand elle se préparait pour aller au combat. Et alors, il dit, mais bon, il a intérêt à le dire, hein, que... Il n'était absolument pas attiré par elle, par son corps. Et on voit dans d'autres documents, effectivement, que c'est la nature du regard.
On peut regarder du moment que ça n'excite pas.
Voilà.
Sont l'objet de moquerie à l'époque les couples de veufs et de veuves remariés. Ça fait rire tout le monde. Les concubins, ça énerve tout le monde aussi. Les amants adultères. Là aussi, ça énerve beaucoup. Hein. L'adultère, aussi bien celui des femmes que celui des hommes.
Hein. Il y a un enjeu plus important dans la réprobation sur l'adultère féminin, parce que la question qui se pose, c'est la question d'éventuels enfants adultérins à une époque où les enfants dits naturels, illégitimes, n'ont pas les mêmes droits, remettent en cause aussi la filiation. Donc il y a des enjeux en fait, qui vont bien au-delà des personnes, mais plus largement de leur famille, qui sont des enjeux économiques, des enjeux... politique. Et puis, si je peux me permettre d'avancer beaucoup dans le temps, au XIXe siècle, le code civil, qu'on appelle aussi le code Napoléon, va rigidifier cette perception de l'adultère et surtout va entériner une définition différenciée de l'adultère féminin ou masculin. Dans la loi, on ne définit pas de la même manière l'adultère féminin ou l'adultère masculin, l'adultère féminin étant beaucoup plus grave et passible de peines beaucoup plus lourdes, alors que l'adultère masculin est plus difficile à établir avec des peines beaucoup plus légères.
En revanche, dans les tribunaux, on parle du plaisir féminin. Hein. C'est pas du tout tabou, comme on pourrait le penser.
Alors, dans certaines affaires très particulières, hein, quand il s'agit de juger, là c'est l'Église hein, qui juge à travers les tribunaux d'officialité l'impuissance. Et donc là, les juges ne sont pas seuls, ils sont accompagnés d'experts, de médecins, de chirurgiens et de matrones. Et là, on va expertiser les parties génitales des époux, des deux, Et ça va jusqu'à une épreuve qu'on appelle le congrès, où on enferme les deux époux qui se détestent, bien sûr, puisque la femme souvent a porté plainte pour impuissance contre son mari. Et on va leur demander de faire le nécessaire pour déterminer si oui ou non il y a impuissance ou frigidité de la part de l'épouse. Alors et là, c'est extraordinaire.
Je vous interromps parce que les procès d'impuissance, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Or, ils sont retentissants à l'époque. Et vous parlez d'un procès qui a eu une publicité énorme en 1659, le procès pour impuissance du marquis de Langeais. C'est un déballage du même ordre que celui qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard. Hein.
C'est encore pire.
Oui, c'est ça.
Oui, parce que tout le monde s'en préoccupe.
Voilà, une femme peut porter plainte contre ce mari parce qu'il est impuissant.
Voilà. Mais encore faut-il
qu'elle le prouve
et que les juges et les experts soient d'accord entre eux. Et les pièces sont vraiment très intéressantes quand on voit qu'il y a un désaccord entre les experts. Et s'agissant du marquis de Langeais, c'est l'arrêt de ces procès pour impuissance, parce que le marquis de Langeais est déclaré impuissant à l'issue de l'épreuve du congrès, où il n'a pas pu, en fait, malgré toutes ces fanfaronnades préalables. Donc le mariage est rompu, est annulé par l'Église, qui seule peut annuler le mariage. Hein. Sauf que voilà, il se remarie et il aura 5 enfants avec sa nouvelle femme. Donc là, le Parlement de Paris, les magistrats, les juristes ont dit stop, on arrête.
Mais c'est fou, parce que là non plus on ne l'imagine pas, mais une femme qui veut faire un procès en impuissance à son mari, elle peut le faire emprisonner et elle peut même faire saisir ses biens, pour pas qu'il s'enfuit.
Bien sûr. Non, c'est des affaires très très sérieuses en fait. Hein. Et il y a une sorte d'âge d'or de ces procès pour impuissance. C'est la fin du XVIe siècle et le siècle de Louis XIII, le début du XVIIe siècle. Et assez curieusement, ça correspond aussi à l'âge d'or, je mets des guillemots, et à l'âge d'or des procès pour sorcellerie.
Eh bien justement, on va en parler des procès pour sorcellerie, mais d'abord, on fait une pause.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Fanny Bunion et Pierre Fournier qui publient Le sexe interdit aux éditions de l'Iconoclaste. Alors parmi ces affaires qui ont énormément de publicité, à peu près à toutes les époques d'ailleurs, il y a les affaires de filtre d'amour, d'ensorcellement. Ça intéressait beaucoup nos ancêtres. Hein.
Oui, ça intéresse d'ailleurs encore beaucoup nos contemporains.
Hein. Pas sous la même forme.
Pas sous la même forme. C'est un peu plus chimique que par le passé. Donc voilà, les filtres d'amour, tous les produits abortifs, bien sûr. Hein. Il y a aussi beaucoup de questions liées à l'avortement par les plantes ou d'autres procédés. Et puis, bon, il y a tous ces produits aphrodisiaques et autres qui vont rendre les amants plus vaillants.
Et ça, c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit exactement?
Alors, en fait, ça n'est pas interdit. La justice intervient quand on bascule vers quelque chose qui s'apparente à l'empoisonnement ou à l'ensorcellement.
Comme aujourd'hui, la drogue du viol.
Par exemple. On sait qu'à Paris, au XVIIIe siècle, vous avez chez les herboristes notamment et d'autres officines, des ventes de ce genre de produits. Mais voilà, à un moment, il y a un des amants qui va porter plainte parce que il considère qu'il a été empoisonné. Et puis il y a toujours le rôle du complice aussi, de l'amant dans les couples qui dysfonctionnent. Et c'est vrai que cette bascule vers l'empoisonnement, le maléfice, l'ensorcellement, c'est aussi ce que l'on voit dans les procès de sorcières, qui souvent sont des femmes plutôt inoffensives, qui rendent beaucoup de services à leurs voisins, y compris dans ce domaine-là. Et puis un jour, tout s'écroule.
Avec des produits qui ne sont pas les produits de synthèse qu'on peut connaître aujourd'hui, mais des produits naturels. Alors on fabrique effectivement des filtres d'amour, des potions à partir du sang des règles, par exemple, à partir de testicules d'animaux qu'on va transformer, réduire en poudre et mélanger à de la cuisine et donc faire manger de la cuisine ensorcelée. Donc il y a beaucoup de plantes aussi, mais de fluides ou de matières qui proviennent aussi des organes génitaux eux-mêmes, à qui on prête des vertus magiques.
Alors, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que c'est entre les guerres de religion et la Révolution française que s'abat la véritable répression de la sexualité. C'est pas au Moyen-Âge, comme on pourrait l'imaginer. C'est vraiment à partir de la Réforme, au fond, et jusqu'à la Révolution française. Et puis, ça va repartir ensuite au XIXe siècle, où l'État va s'immiscer encore davantage dans la sexualité.
Absolument. Le Moyen-Âge, avec le recul que nous avons maintenant, il nous apparaît comme une époque vraiment très, très tolérante. Et comme vous l'avez dit, c'est la réforme et la contre-réforme catholique qui vont rigidifier, codifier, normaliser et renvoyer les femmes à leur seule fonction domestique au foyer. Elles ne sortent plus.
En France, elles sortent quand même.
Dans certaines catégories de la population, on n'admet pas vraiment qu'elles sortent dans la rue. Et ça, donc, c'est vrai que c'est le XVIIe siècle. Quand vous voyez certains manuels de maintien, il y a des injonctions du genre il faut bannir tous les miroirs des intérieurs pour pas que les jeunes femmes se regardent dedans. Donc vous imaginez tout de même.
Mais ça, c'est respecté.
Respecté dans certaines, dans certaines catégories de la population, catholique comme protestante, oui, oui. Alors après, il y a les femmes du peuple beaucoup plus libres de leur mouvement, parce qu'elles, de toute façon, elles travaillent, elles travaillent hors de chez elles. Mais c'est vrai qu'on dit au XVIIe siècle, on voit vraiment que les choses se figent, se durcissent. Alors, il y a la parenthèse du XVIIIe siècle, bien sûr, où là, il y a à nouveau un relâchement.
Le libertinage.
Voilà. Et puis...
Le XIXe arrive.
Et le XIXe est synonyme de rigidification, effectivement, terrible, en particulier pour les femmes, où la loi, le code civil en particulier, fait des femmes des mineurs au même titre que les enfants. Dans le cadre du mariage, les femmes sont dépossédées de tous les droits et sont renvoyées vraiment à une séparation des sphères. La sphère privée, domestique pour les femmes, donc à l'intérieur, et puis la sphère publique, politique, économique pour les hommes. Donc l'idée même de cette philosophie du code civil, c'est que, on prend souvent cette métaphore botanique, c'est que la femme appartient à son mari comme l'arbre fruitier appartient au jardinier, c'est-à-dire qu'une femme c'est fait pour faire des enfants. Donc une sexualité qui serait en dehors... De la fécondité, n'a pas lieu d'être. Et il y a tout un carcan moral, juridique, mais aussi religieux, moral, qu'on trouve dans la littérature aussi, corsette, effectivement, qui tente en tout cas de corseter l'intimité des hommes et des femmes.
Mais alors ça, on l'entend bien, et quand on lit les grands romans du 19e, on voit bien à la fois que c'est comme ça, la morale veut ça, on s'aperçoit aussi que ça n'est pas respecté, mais vous donnez un chiffre dans votre livre qui m'a impressionné. Vous dites qu'à la Belle Époque, donc au tournant, à la fin du 19e siècle et début du 20e, un quart des filles ont des relations sexuelles avant le mariage. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, on a plusieurs manières pour l'établir, mais il y a aussi une manière toute simple de démographie historique, c'est qu'on regarde les dates des unions et les dates des naissances des enfants. Et quand il y a 3 mois entre un mariage et une naissance, on peut supposer qu'effectivement le mariage a été consommé en amont. Donc ça fait partie des habitudes. Et puis il y a aussi beaucoup de mariages qui sont organisés parce qu'il y a une grossesse qui est en cours et qu'il faut régulariser, entre guillemets, cette sexualité qui a pris les chemins de traverse.
Alors on voit bien qu'au XXe siècle... Tout commence, il y a des révolutions sexuelles dès l'entre-deux-guerres. Après la Première Guerre mondiale, il y a une première révolution sexuelle, il y en aura une deuxième dans les années 60. Au fond, on voit bien que le grand combat du XXe siècle, c'est empêcher la limitation des naissances. Là, l'État veut absolument qu'on continue de faire des enfants, donc il prohibe tout ce qui peut aider les femmes à limiter le nombre d'enfants qu'ils veulent. Et puis aussi, limiter la pornographie et, dans la mesure du possible, les sexualités que vous appelez marginales.
Les normes morales évoluent finalement assez peu. On reste sur un modèle hétérosexuel dans un cadre familial qui doit être fécond. Et donc tout ce qui est en dehors et qui cherche volontairement à être en dehors est réprouvé par la morale. Mais il y a effectivement des initiatives, des mouvements libertaires, néo-malthusiens, féministes aussi, de permettre aux individus d'avoir une connaissance de leur corps, une connaissance de la sexualité, de pouvoir, si ils et elles le souhaitent, dissocier la sexualité de la procréation, ce que permettent déjà de toute façon des moyens mécaniques, comme les préservatifs, les PCR, les caps cervicales, qui sont des moyens mécaniques de contraception, mais qui sont interdits en France. Et leur publicité est interdite, fait l'objet de poursuites, de condamnations à de la prison.
Également, on veut faire des enfants.
Il faut faire des enfants, en particulier au sortir de la Première Guerre mondiale. La saignée démographique de la Première Guerre mondiale est l'occasion de verrouiller de manière très rigide les questions de sexualité, tout comme le travail des femmes aussi tend à être, en tout cas, renvoyé au foyer les femmes qui sont mères de famille. Donc il y a cette idée, voilà, d'enfermer dans une sphère familiale. Et puis, il y a quand même des initiatives, des pratiques des gens ordinaires, et puis des initiatives aussi de courants politiques plutôt marginaux, mais qui voilà, disent qu'il y a des moyens. Avoir des enfants qu'on n'a pas désirés ou qu'on n'a pas les moyens économiques d'élever, c'est un problème de société. Et donc, il faut permettre aux individus de connaître leur corps, de connaître le fonctionnement du corps et de pouvoir choisir d'avoir ou pas des enfants. Et là, pour le coup, on est dans une transgression des normes morales, religieuses, sexuelles manifestes.
Oui, et ce qui a changé au début du XXe siècle par rapport aux époques précédentes, c'est que l'Église, qui a encore pas mal d'influence, est épaulée par l'État, comme vient de le dire Fanny, et par les médecins. Et on a des témoignages extraordinaires de consultations médicales, et l'un d'entre eux, le docteur Bergeret, je crois, finit souvent par dire aux femmes qui viennent le voir, mais vous savez, il n'y a qu'un truc qui marche, faites un enfant, voilà, et tout rentrera dans l'ordre.
Pour tous les problèmes.
Tous les problèmes.
Et puis on a aussi quelques médecins qui ont une approche un petit peu différente et qui considèrent notamment en cas de ce qu'on appellerait aujourd'hui des troubles de l'humeur, des états dépressifs, et bien que les activités sexuelles sont une manière de guérir de ces troubles et pratiquent ce qu'on appelle des stimulations clitoridiennes et donc utilisent des vibromasseurs à la fin du 19e et au début du 20e siècle pour satisfaire, en tout cas procurer du plaisir aux femmes et au-delà du plaisir sexuel immédiat, un bien-être plus large. Donc on a aussi du côté de la médecine des discours parfois contradictoires, mais avec l'idée que de toute façon, la question de la sexualité, c'est aussi une clé sociale bien plus large.
Effectivement, c'est ce que montre votre livre. Je rappelle son titre, Le sexe interdit. Ça vient de paraître chez l'Iconoclaste. Voilà, qu'est-ce qui était admis et qu'est-ce qui était puni chez nos ancêtres, c'est pas toujours ce que l'on croit. Merci tous les deux.
Merci.
Merci.